de commencer, j'aimerais lui poser une question. Qui c'est la personne que vous aimez le plus? Vous êtes chrétien et personne ne me répond. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est la personne la plus importante. Ma femme n'est pas là, je peux le dire, j'aime Jésus plus que ma femme. Hein? Avant de connaître Jésus, j'aimais ma femme, c'était l'amour du monde. Maintenant, je l'aime en Christ. Elle est ma sœur. Hein? Et je l'aime de tout l'amour de Christ. Et ce matin, le but du message, c'est de diriger nos pensées sur cette personne, sur ce Dieu qui se fait chair. Et il a fait tout ce que qui peut nous apporter le bonheur, la paix. Hein? Et je vous invite à les contempler. Alors, bien sûr, on ne peut pas les voir avec nos yeux de chair, mais avec les yeux du cœur, on peut les voir. Et je vous invite vraiment à le contempler, à le découvrir, ce grand Dieu, car c'est vraiment un grand Dieu. Et nous allons le découvrir dans le livre de l'Apocalypse, bien sûr. C'est le livre destiné en premier lieu aux églises, hein, qui étaient près des difficultés, persécutées et toutes ces choses-là. Et on voit qu'aujourd'hui la chose n'a pas changé. Hein. Les chrétiens sont persécutés partout parce que le monde ne veut pas de Dieu. Hein. Et quoi de plus tonique pour notre propre foi de savoir, hein, que celui que nous aimons le plus, celui qui compte le plus dans notre vie, hein, c'est ce grand Dieu qui, Apocalypse, il nous décrit. Et l'Apocalypse, chapitre 1, il nous décrit Jésus dans la gloire. Dans la gloire. Prenez le chapitre 1 d'Apocalypse. Nous allons lire un peu de versets du chapitre 1, verset 9, jusqu'à verset 20, pour que vous puissiez, au moins ceux qui sont chrétiens, qui aiment Jésus plus que tous, ils puissent le contempler, où il est, et toute la gloire qu'il a. Et quel bonheur de dire, oui, je t'aime Jésus. On n'entend pas ces mots, hein, les hommes. Je t'aime, Jésus. C'est surtout les femmes qui le disent beaucoup plus. Hein. Mais c'est vrai que Jésus, il l'a dit, hein, celui qui aime quelqu'un plus que moi, il n'est pas digne de moi, parce que lui, il a tout donné. Verset 9, regardez, chapitre 1. Il dit, « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. » On a parlé ce matin, n'est-ce pas? Le rôle, notre rôle, c'est de répandre tout autour de nous l'Évangile et de témoigner. Jean, il avait été incarcéré pour cela. Il avait été amené dans l'île de Patmos en tant qu'esclave. Verset 10, « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. » Beaucoup ils disent que ce jour du Seigneur, c'est le dimanche. Ce n'est pas le dimanche. Le jour du Seigneur, il a été saisi en esprit, hein, et il a vu le jour de gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, le jour du Seigneur. Parce que le Seigneur, il est venu dans l'humilité, hein? Et un jour, il reviendra dans la gloire. Mais là, il a été saisi et il a vu toute la gloire. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à l'Odyssée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu de cette chandelier, quelqu'un qui ressemblait en fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il avait été embrasé dans une fournée, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite cette étoile. De sa bouche sortait une épée aiguë. À deux tranchants, son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Et le vivant, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Le mystère de cette étoile que tu as vue dans ma main droite et de cette chandelier d'or, les sept étoiles sont les anges de cette église et les sept chandeliers sont les sept églises. » Voilà, c'est la vision de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, assis sur son trône. Parce que Jésus, il s'est assis sur le trône. Dans l'évangile de Marc, chapitre 16, au jour où il a été élevé, il regardait que Jésus, il s'est levé et il a dit, il est parti et il s'est assis à la droite de son Père. Et ici, on voit la gloire de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Il est assis et il règne, malgré qu'aujourd'hui, on peut penser que c'est le mal qui règne ici-bas sur cette terre. Non, c'est Dieu qui règne, c'est Jésus qui règne. Et vous savez, hein, votre cœur ne se réjouit pas de savoir que votre Seigneur et Sauveur, il est assis à la droite de Dieu et qui dirige toutes choses. Ils ont chanté tout à l'heure, frères et sœurs, hein? Ils ont chanté, n'ayons pas de crainte, Jésus est avec nous. Aucune crainte doit nous prendre. Mais si nous sommes des chrétiens, nous devons nous réjouir. Parce qu'il s'est assis à la droite de Dieu et il règne. Si nous sommes des chrétiens, nous devons regarder la croix et la chose dont nous devons nous réjouir, c'est que le Seigneur il n'est plus là. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, il y a un crucifix avec le Seigneur. Non, Jésus-Christ il n'est plus sur la croix. C'est terminé. Où est-ce qu'il est? Il est dans les cieux. Il est assis à la droite de Dieu. Et c'est là qu'il dirige toutes choses. C'est ce Seigneur-là que nous avons comme Sauveur. Quelle joie de savoir qu'un jour nous allons le suivre et nous allons être éternellement avec lui. Essayons de comprendre un peu tout ce que ça signifie cela, que Jésus il est assis sur le trône. Pourquoi est-ce que Jésus il s'est assis sur le trône? Et premièrement, c'est un fait historique. Oui, que Jésus il s'est assis sur le trône, nous le dit les évangiles, car c'est de là qu'il est venu. Il a quitté cette gloire qu'il avait auparavant et il est venu ici-bas pour mourir pour des êtres tels que moi, tels que vous, que ne méritions rien. Et pourtant, lui qui était Dieu, il est descendu, il a donné sa vie pour chacun de nous et maintenant, il est assis à la droite de Dieu. Et vous savez aussi, c'est la perfection de cette œuvre qu'il a accomplie, qui lui a donné le droit de s'asseoir sur son trône. Parce qu'il a accompli toute l'œuvre du salut. Le salut que chacun de nous aujourd'hui, il a en réserve. Ce salut qui nous donne la vie éternelle, qui nous donne la paix, la joie. Plus aucune timidité, plus aucun besoin d'avoir peur de la mort. Pourquoi? Parce que Jésus, il a vaincu. Il a vaincu et nous sommes vainqueurs avec lui. Et il nous le dit lui-même, hein, il a amené à la perfection l'œuvre que le Seigneur il lui a donnée. Et vous savez, c'est le souci de chaque chrétien, de chacun de nous, d'accomplir l'œuvre que le Seigneur il nous a donnée. que nous puissions, comme Jésus, en certain moment, il a dit, en priant le Père, il a dit, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. » Et le Père lui a dit, « Assieds-toi à ma droite. » Et c'est cela que nous devons nous dire aussi, lorsque nous serons devant le Seigneur, que nous n'ayons pas honte de cela. Mais le Seigneur, il est notre modèle, il est notre exemple. Et c'est pour cela qu'il s'est assis à la droite de Dieu. Et un jour, nous serons assis à la droite de Jésus-Christ, car nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Et il a souffert toutes ces choses-là. Une autre chose, pourquoi il s'est assis sur le trône? Il fallait qu'il s'assoie sur le trône. C'est parce que quand il a été élevé, lorsqu'il est monté au ciel, il nous a envoyé ce qui nous tient debout aujourd'hui, ce qui nous aide, ce qui nous guide dans notre vie chrétienne, c'est le Saint-Esprit. Lorsqu'il parlait aux disciples, les disciples étaient dans la tristesse parce qu'il lui a dit « Je m'en vais ». Ils étaient dans la tristesse et Jésus lui a dit « Il vous est avantageux que je m'en aille ». Pourquoi? Parce que Jésus, en partant, il a pu envoyer cet esprit. Ce Saint-Esprit. Et maintenant, nous avons deux personnes. Nous avons Jésus-Christ dans la gloire, assis sur le trône de Dieu. Et nous avons le Saint-Esprit ici-bas qui nous aide à cheminer. Le Seigneur là-haut et un autre Saint-Esprit ici-bas. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas plus petit que Jésus, hein. Beaucoup de gens, je vous l'ai déjà dit, ils qualifient la Trinité. Première personne, c'est le Père, donc c'est le plus haut. Deuxième, Jésus-Christ. Et troisième, le Saint-Esprit. Il n'y a pas de première place, deuxième place et troisième place. C'est trois personnes qui s'aiment entre eux et pour accomplir le plan de Dieu, qui c'était le plan à eux, ils se sont soumis les uns les autres. Voilà, c'est l'exhortation que Pierre nous donne. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, comme lui il a fait, qui n'a pas cherché comme quelque chose à réclamer de s'être soumis. Et pourtant, il était Dieu, et il l'a fait. Et on a vu aussi dans nos études qu'il a appris l'obéissance par la souffrance. Lui qui était Dieu, qu'il aurait dû obéir à qui que ce soit, il a appris à obéir, parce qu'en tant que Dieu, il n'avait pas à obéir, mais il a appris. Et chacun de nous aussi, nous devons apprendre à obéir, premièrement à Dieu, mais aussi à regarder nos frères et sœurs avec la même dimension que Jésus, il regardait son Père. Car jamais Jésus il a fait un miracle sans demander la volonté de Dieu, sans que la volonté de Dieu il soit accomplie. Et c'est comme ça que nous devons cheminer aussi. Voilà pourquoi, regardez Jésus assis sur son trône, nous pouvons voir tout le cheminement de notre propre vie. Pourquoi? Parce qu'il est notre exemple. Il est notre exemple. Lui qui a souffert, pour qui? Pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes. Lorsqu'ils ont tué Jésus, ça a été le plus grand meurtre de l'humanité, que l'humanité a pu commettre. Ils ont tué le seul qui ne méritait pas la mort. D'abord parce qu'il était sans péché. Lorsque Pilate, après avoir flagellé Jésus, après lui avoir mis la couronne d'épines, il a présenté au peuple, il a dit, voici l'homme. Il a dit avec une air de dédain, mais Il ne se rendait pas compte qu'il présentait vraiment l'homme que Dieu il a accepté, l'homme que Dieu il a envoyé. Voici l'homme, voici comment nous devons être. Voici l'exemple que nous devons suivre, Jésus-Christ. C'est pour ça que nous l'aimons. C'est pour ça que nous aimons Jésus, parce qu'il a tout fait pour nous. Il a été à donner sa vie, lui qui donne la vie. Et c'est ça pourquoi nous devons aimer Jésus. Et c'est cette gloire-là qui nous montre l'Apocalypse. Vous savez ici, lorsqu'il dit ça aux sept églises, savez-vous pourquoi il y a que sept églises? Est-ce que vous croyez qu'il y avait que sept églises? 7 églises. Non, il y en avait beaucoup plus. Mais vous savez, lorsque le Saint-Esprit, il a dit à Jean d'écrire ces choses-là, le Saint-Esprit, il parlait du plan de Dieu. Vous savez tous qu'il y a 7 dispensations. Hein? C'est quoi une dispensation? C'est tous les plans de Dieu délimités du commencement, de la création, jusqu'à l'état éternel. Pourquoi 7 églises? Parce que dit ça aux 7 églises, parce qu'à travers ces 7 églises, Dieu, il voulait nous présenter le cheminement que les églises, ils auraient fait dans le futur. Parce qu'il a dit, écris cela, ce que tu as vu, ce qu'il est et ce qu'il sera. Ce que tu as vu, c'est toute la vie de Jésus-Christ. Ce qu'il est, c'est l'Église. Dans quel état il était en ce moment? Parce que Jean, il est mort vers l'année 100, hein, donc il avait déjà des églises d'établies. Hein. Raconte, et ce qui sera, l'Apocalypse, c'est le livre prophétique. Et vous savez, il y a cette église, j'ai pris ça sur un livre, voilà, il s'agit de 7 dispensations. La première église, c'était l'église d'Éphèse, hein. C'est l'église apostolique du 1er siècle. La deuxième église, Smyrne, c'est l'église persécutée, parce qu'après après avoir prêché la bonne parole à Jérusalem, ils ont été persécutés partout. C'est l'église persécutée du 100 à 300 après Jésus-Christ. Pergame, c'est l'église liée à l'État, 313 à 500, c'est-à-dire lorsque Constantin il a établi l'église d'État. Ensuite, il y a Thyatire, c'est l'église du Moyen-Âge, c'est l'église papale, où le pape il avait cette puissance énorme. Et il y a aussi Thyatire, il y a Sardes, l'église de la Réforme, hein, avec Luther, avec Calvin, avec le protestantisme qu'ils ont redécouvert la parole de Dieu qu'ils avaient laissé de côté. Et la sixième église, c'est Philadelphie. Philadelphie, c'est l'église du réveil du 19e siècle. Hein, et Philadelphie, ça veut dire amour fraternel. Ça, c'est la vraie église. Et la septième église, c'est l'église de l'Odyssée. C'est l'église actuelle, le peuple sous le jugement. Vous savez, aujourd'hui, il y a deux églises ici-bas. Il y a l'église de Jésus-Christ et il y a l'église de l'Odyssée. L'église de Jésus-Christ, un jour, il va être enlevé. Et qui c'est qui va rester ici? C'est l'église de l'Odyssée. Cette église dans laquelle le Seigneur, au chapitre 3, il frappe à la porte et il voulait rentrer. Une église dans laquelle il n'y a pas Jésus-Christ. Il ne peut pas y avoir l'amour, la paix, la joie. Il ne peut pas y avoir la vie éternelle. S'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas la vie éternelle. Et nous, en tant que chrétiens, nous avons la vie éternelle. Quelle joie! Voilà pourquoi nous aimons tant Jésus-Christ. Et voilà pourquoi nous devons prendre de l'encouragement de savoir que nous ne sommes pas seuls. Pourquoi? Parce que Jésus, il est assis sur son trône. Et il n'arrive rien sans la permission de Dieu. Sans la permission de Jésus, rien ne peut nous arriver. On a l'exemple dans le livre de Job. Hein? Job, Satan, pour accabler Job, il a demandé la permission de Dieu. Il lui a dit, vas-y. Mais il était sous la protection de Dieu. Il a gardé sa foi, il est resté fidèle. Par contre, sa femme, il a dit, mais maudit Dieu! Et lui, il a dit, vous connaissez tous la réponse, hein? Dieu, il m'a donné, Dieu, il a repris. Hein? Moi, je reste fidèle à Dieu. Voilà ce grand Dieu que nous aimons, Jésus-Christ. Et c'est en ça que nous devons nous garder. Et il y a un autre verset, toujours dans Apocalypse, regardez, chapitre 5 dans l'Apocalypse, après avoir vu toute cette gloire, après avoir vu l'historique de ce que Jésus il a vécu, regardez au chapitre 5, le verset 12 à 14. On peut prendre au verset 11, hein? Il dit, j'ai regardé et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades, des myriades, des milliers, des milliards, des milliers. Ça, c'est un nombre incalculable. Ça, c'est tous les anges qui sont au service des dieux. Un nombre incalculable. Hein? Et tous ces anges, ils disaient, imaginez-vous, tous ces nombres d'anges hein, qui sont là autour du trône où Jésus il est assis. Et tous, qu'est-ce qu'ils disent? Verset 12. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Il est digne de recevoir toutes ces choses. Verset 13, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendais qui disaient, à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Verset 14, et les quatre êtres vivants disaient, amen. Et les vieillards se prosternèrent et l'adorèrent. Qui c'est qui est ici sur le trône? C'est Jésus-Christ. C'est l'agneau. L'agneau. L'agneau qui a été immolé. L'agneau immolé, qui a été immolé. Pourquoi il dit ça? Ça, c'est pour que nous n'oublions jamais que l'agneau, vous savez qui c'est l'agneau? Et Jean, lorsqu'il a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. L'agneau, c'est Jésus-Christ, hein, qui était immolé. Pourquoi? Pour que nous ne puissions jamais oublier ce que Jésus-Christ, il a fait pour chacun de nous. Et encore une fois, qu'est-ce qui, là-haut, dans le ciel, tout a été fait par Dieu. Mais il y a une seule chose qu'ils ont fait les hommes au ciel, c'est les marques aux mains et aux pieds de Jésus-Christ. Et il les aura pour l'éternité. Pourquoi? Parce que en le regardant, nous saurons qu'est-ce qu'il a fait pour chacun de nous. Lorsqu'il y aura l'état éternel, au millénium, il va encore y avoir des sacrifices, mais pas des sacrifices pour enlever les péchés ou pour autre chose, mais ces sacrifices, ils seront là pour remémorer à tous ceux qui sont là en leur disant, si vous êtes ici, si vous avez la vie éternelle, si vous avez la paix, la joie, c'est grâce à ce sacrifice que Jésus-Christ il a fait il y a longtemps. Et pour chacun de vous, il a fait cela. Voilà pourquoi il est digne de recevoir la puissance, l'honneur, la gloire. Il est digne. Le mot digne en grec, ça veut dire lourd, pesant. Lourd, pesant. Pourquoi? Parce que c'est dans la balance de la justice et de la grâce de Dieu, Jésus, c'est le poids qui fait monter la balance. Si on ne met pas Jésus-Christ, la balance ne monte pas. Mais en disant, tu es digne, tu es lourd, tu es pesant, il n'y a rien qui peut empêcher cette balance de monter. Il n'y a que Jésus-Christ. Tu es digne. De mériter louange, puissance, honneur. Qu'est-ce qu'ils ont dit, le souverain sacrificateur, les pharisiens et tout ça, lorsque Pilate il l'a présenté, ou lorsqu'il était dans la synagogue, il lui a dit, Caïphe lui a dit, est-ce que c'est toi le fils de Dieu? Il a dit, oui, tu le dis. Et il a dit, il est digne de mourir. Non, Jésus-Christ, il est digne de vivre parce qu'il est ressuscité. Satan, il s'est frotté les mains lorsque Jésus-Christ, il est mort. Mais ça, c'était encore la prophétie dans Genèse 3:15, la première prophétie messianique, où dans la malédiction à Satan, il lui a dit, tu lui blesseras les genoux, mais il t'écrasera la tête. Et c'est ce qu'il a fait. Il l'a blessé seulement. Pourquoi? Parce que 3 jours après, il est ressuscité et il est monté au ciel. Et maintenant, il est assis à la droite de Dieu. Et vous savez, hein, si vous avez le Seigneur Jésus-Christ, si nous avons le Seigneur Jésus-Christ, nous devons être dans la joie. Pourquoi? Parce que ceux qui n'ont pas Jésus, un jour, ils vont plier les genoux devant lui. Nous l'avons fait parce que nous aimons Jésus. Mais ces gens-là, ils vont être obligés de plier les genoux. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus, un jour, il viendra, pas comme sauveur, mais en tant que juge. Et tous ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, ils seront jugés. Et ils seront envoyés dans l'enfer, dans cet endroit où que Dieu a préparé pour les diables. Pas pour nous, les humains, parce que Dieu est amour. Dieu, il nous aime. Dieu, il aime les pécheurs. Dieu, il aime le monde, mais il a une haine pour les péchés. Aujourd'hui, on croit, oui, Dieu est bon, Dieu n'est pas un père fouettard. Il va sauver tout le monde, on ira tous au paradis. Non, Dieu, il est saint, Dieu, mais aussi, il est juste. Il condamnera tous ceux qui n'ont pas voulu écouter la voix de la vérité. Et la voix de vérité, nous l'avons. C'est la parole de Dieu. Et nous devons la proclamer. C'est notre rôle. Nous qui avons un sauveur qui est assis à la droite de Dieu et qui dirige toutes choses et qui n'a qu'un seul souhait, c'est de nous avoir auprès de lui. C'est ça le vœu de Jésus-Christ. Il attend l'heure où il peut revenir pour nous prendre. Quelle joie de savoir cela! Quelle joie de savoir ça. Il dit, il est digne de recevoir toutes ces choses-là. Mais il dit, de recevoir. Il est digne de recevoir. Hein? Lui qui a tout donné. Il a tout donné pour nous. Hein? Sa vie entière. Et il est digne de recevoir. Pas seulement parce qu'il est assis à la droite de Dieu, mais il est digne pour tout ce qu'il a fait pour chacun de nous. Et nous devons lui donner tout. Il est digne de recevoir. C'est ça que nous devons. Hein. Nous devons lui donner notre vie entière, notre temps, notre argent. Vous me direz, oh, c'est moi qui travaille. Hein. Non, il est digne. Sommes-nous dignes de recevoir quelque chose? Nous ne sommes dignes de rien. Je l'ai dit à l'étude biblique mercredi. Lorsque la première fois le prédicateur américain d'ici, M. Harp, il est venu à la maison. Il savait que j'ai fréquenté le catholicisme pas mal de temps. Il m'a dit, tu te sens comment? Ben, je dis, je suis en règle avec Dieu. Hein? Et la vie éternelle, ben, j'espère que Dieu me la donnera. Donc, tu attends quelque chose de Dieu, il m'a dit. J'ai dit, bien sûr, parce que j'essaie de faire sa volonté. Il a dit, je vais te dire ce que Dieu va te donner et ce que tu mérites. Dans Romains 6, verset 23. Tu attends quelque chose de Dieu. Regarde ce qu'il te dit, Dieu. Les salaires du péché, c'est la mort. Est-ce que tu es pécheur? Ben oui, comme tout le monde. Mais alors Dieu ne te donne rien, il te donne la mort. Tu attends quelque chose de Dieu, la mort, elle est là pour toi. Mais le verset, il continue. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'ai plié mes genoux ces jours-là. Ces jours-là. Parce que j'ai reconnu ce que Jésus il a fait pour moi. Et il est digne de recevoir. Parce qu'il a cet agneau, Jésus-Christ, il a été immolé pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Donc il est digne de recevoir tout de moi-même. Tout de moi-même. Hein? Il a été immolé. Son sacrifice ne sera jamais répété. Jamais répété. Il y a des endroits dans lesquels Jésus-Christ il meurt tous les jours, et plusieurs fois, des milliers de fois par jour. Non, l'Épître aux Hébreux nous a dit qu'il est mort une fois pour toutes. Et c'est ça que nous devons avoir au plus profond de nous-mêmes. Il est mort une fois pour toutes. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Il ne répète pas. Vous savez, Dieu, il répète parce que nous sommes oublieux. Mais les choses qu'il a dit une fois, la seconde fois, il te dira toujours la même chose. Il ne rajoute pas, il ne retranche rien. Pourquoi? Parce que chaque fois que Dieu parle, il dit la vérité. Il dit ce qu'il faut. Voilà pourquoi nous avons besoin que ces choses-là soient répétées. Et Paul il le disait à Timothée. Hein? Répète ces choses et confie-les à des gens fidèles afin qu'ils puissent apporter ce message, pas un autre message, pas un autre évangile, mais le seul et unique évangile. Car il n'y a qu'un seul évangile et c'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est cette bonne nouvelle que les anges ils ont annoncée aux bergers. Voilà, il vous est né un sauveur. Oui, Jésus est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire, louange. Il possédait toutes ces choses-là. Il les possédait parce qu'il est Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout laissé de côté. Et il est descendu ici-bas à vivre cette vie misérable que nous menons. Mais en même temps, il nous a montré la vie que Dieu désire, que chacun de nous, il doit mener. Voilà pourquoi le Seigneur, à un certain moment, il a dit, « Père, je t'ai glorifié sur la terre, rends-moi la gloire que j'avais auparavant auprès de toi. » Il a juste abandonné pour une période limitée. Et tout cela, il l'a fait pour qui? Pour nous. Richesse. Dieu n'a besoin de rien, hein. Et il nous est dit dans 2 Corinthiens 8, 9, « De riche, il est devenu pauvre afin que nous soyons enrichis. » Quelle est la richesse que Jésus nous a donnée? Mais la vie éternelle, la paix, la joie, le repos. Mais c'est ça. Et ça, c'est la vraie richesse. Ce n'est pas l'argent qu'on a en banque. C'est la richesse d'avoir Jésus-Christ dans notre cœur. Ça, c'est la richesse. Lui, de riche qu'il était, il est devenu pauvre pour nous. Il a tout quitté. Alors, comment ne pas lui donner tout ce dont nous avons? Pourquoi? Parce qu'il est digne. Il est digne de recevoir toutes ces choses-là. Et il est assis sur le trône. Il y a dans Ésaïe 53, 11, il nous dit... Il jouira du fruit du travail de son âme. Il jouira du fruit du travail. Quel est le fruit dont il jouira, Jésus-Christ? Mais c'est nous les chrétiens. C'est nous les fruits de son travail. Son travail, il était quoi? Accomplir le salut. Et les fruits de ce travail, mais c'est nous, c'est l'Église. Et un de ces jours, il va venir nous prendre. Il va nous ramener au ciel. Et nous serons éternellement avec lui. Maintenant, nous l'avons contemplé avec nos yeux du cœur. Mais ce jour-là, nous le verrons tel qu'il est. Et nous serons semblables à lui. C'est ça, la contempler Jésus-Christ. Si nous avions... constamment cette image de Jésus-Christ au lieu de pécher et de pécher contre lui, nous serions et nous nous garderons auprès de lui. Pourquoi? Parce que nous avons la force de dire non à toute tentation. Et c'est Jésus qui nous a donné cette force, cette puissance, car il nous a délivrés de l'esclavage dans lequel nous étions, l'esclavage du péché, l'esclavage de Satan. L'esclavage d'un cœur mauvais. Mais Jésus-Christ, il est venu et il nous a changé tout ça. Et aujourd'hui, nous devons crier, acclamer. Oui, tu es digne, Seigneur, de recevoir tout honneur. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir te donner cette dignité à travers une vie agréable à toi. C'est ça que le Seigneur nous demande. Alors, Ne nous arrêtons jamais de crier auprès de lui, car il est là pour ça. À Pierre, il lui a dit, bientôt tu vas me régner trois fois. Il a dit, Satan, il a voulu vous cribler, mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Voilà pourquoi Pierre, il a tenu. Lorsqu'il s'est aperçu, il a dit, au chant du coq, tu vas me régner trois fois, avant que les coqs chantent. Il avait régné, les coqs chantent, mais au même moment, Jésus-Christ, il sort du temple où il était sous les souverains sacrificateurs. Il sort, il passe dans ces jardins, dans cet espace où les gens ils étaient là, assemblés, pour se réchauffer. Et en sortant, son regard tombe sur Pierre. C'est ce regard-là qui lui a donné la repentance. C'est là qu'il a commencé à pleurer. Il a reconnu ce qu'il a fait. C'est le regard de Jésus qui peut nous amener à ses pieds. N'oublions jamais que Jésus, il est là, assis sur le trône de Dieu. Et l'Épître aux Hébreux, il termine en nous disant, « Ayez les regards fixés sur Jésus-Christ, qui est l'accomplissement de la foi. » Voilà pourquoi, en tant que chrétiens, nous devons crier et lui dire, « Oui, Seigneur, tu es digne de recevoir toute gloire, toute puissance, tout honneur. Aide-nous à pouvoir te la donner. » Je vous invite à vous lever et ensemble, on va chanter ces cantiques. Tu es digne, Seigneur. Mettons-nous debout.